Le médecin des pauvres, deuxième partie, chapitre 33, un héros d'Homère. Une heure environ s'était écoulée. La lune, baissant rapidement à l'horizon, avait fini par triompher des nuages épais qui couvraient le ciel. Et ses rayons obliques traçaient un cercle faiblement lumineux à l'entrée du couloir sur lequel veillait Garbas. Cette pâle lueur faisait paraître plus sombre encore les ténébreuses profondeurs de la grotte. Tout à coup, le trompette tressaillit. Il venait d'entendre le bruit léger produit par une pierre roulant sur le versant de la côte. « Oh oh ! » murmura-t-il. « Que veut dire cela ? Est-ce la course d'un lièvre ? L'aile d'un oiseau de nuit ? Ou le pied d'un homme qui vient de détacher ce caillou ? » Dans la situation de nos personnages, la solution de ce problème était évidemment une question de vie ou de mort. Garbas se souleva à demi et, retenant son haleine, s'efforçant d'arrêter les battements de son cœur, il écouta. Au bout d'un instant, un nouveau bruit se fit entendre. On agitait des broussailles à une faible distance de la grotte. « Ceci devient sérieux, » pensa le trompette. « C'est un homme, et qui dit homme en ce moment dit ennemi. » Quelques secondes passèrent encore. Garbas ne respirait plus. Soudain, une ombre opaque intercepta en partie les rayons de la lune. Quelqu'un était debout, en dehors, à l'extrémité du couloir. L'ombre se pencha, puis se redressa presque aussitôt et disparut. En même temps, une voix cria « Hé, camarades, par ici ! Nous les tenons ! Voici l'entrée de la tanière !»« Alarme, capitaine ! » dit vivement Garbas. « Nous sommes découverts !»« J'avais bien entendu, » répondit l'accusant. « Si je ne remuais pas, c'est que j'avais peur de réveiller le colonel. »« Ah ! » fit alors Varros d'une voix défaillante. « Je ne dors pas, et je vis encore. Et je crois bien que le rêve de ma vie va s'accomplir, et que je vais mourir en soldat. Aide-moi à me lever, mon fils, et mets mon épée dans ma main. » Soutenu par l'accusant, le héros se mit d'abord à genoux, puis se dressa sur ses jambes défaillantes et, s'appuyant sur sa forte et vaillante épée, il attendit. Un bruit de pas, un murmure de voix se faisait entendre au dehors et se rapprochait d'instant en instant. Les gris arrivaient. Bientôt, les bleuâtres clartés du ciel furent interceptées de nouveau et plus complètement que la première fois. Les assaillants obstruaient l'entrée du couloir. « Ah ça, mais !» s'écria l'un d'eux. « Il fait plus noir là-dedans que dans un four. Ce trou a l'air d'un soupirail de l'enfer. Allumons des broussailles afin de voir où nous allons. » Le conseil était bon. Il fut suivi tout aussitôt. Des tiges de buis, attachées aux fentes de la pierre, s'embrasèrent en pétillant et une lumière vive éclaira l'entrée de la grotte. En même temps, quelques-uns des gris se penchèrent pour voir à l'intérieur. C'était ce qu'attendait Garbas. Il fit feu de ses deux pistolets. Deux hommes tombèrent. Les autres reculèrent en poussant un long gémissement de terreur et de rage. Garbas céda la place au capitaine, qui se tint prêt à tirer, tandis que le trompette rechargeait ses pistolets. À peine avait-il achevé que les gris revinrent à l'assaut. Les quatre coups des deux francs-comtois jetèrent sur le terrain quatre cadavres. « Rechargeons !» dit l'accusant. « Rechargeons et hâtons-nous » Fort déconcertés par la manière dont ils avaient été reçus, les assaillants n'osaient plus se mettre en vue. Postés sur le revers de la montagne, un peu au-dessous de l'ouverture, ils commencèrent à diriger dans la grotte un feu de mousqueterie bien soutenu. Mais leurs balles allaient frapper la voûte sans atteindre les trois francs-comtois. Découragés de ce résultat négatif, les gris interrompirent leur feu. Ils parurent se consulter pendant un instant, puis la voix du chef cria « Rends-toi, Varros, et tu auras la vie sauve !»« Non, de par tous les diables, je ne me rendrai pas !» répondit le colonel. Après un silence, la voix reprit « Quand nous devrions nous faire tuer ici jusqu'au dernier, tu ne ressortiras point vivant si tu ne te rends pas. Rends-toi donc !» Et Varros répéta « Non !» « De par tous les diables, je ne me rendrai pas !» Exaspérés par les pertes qu'ils venaient de subir, les gris étaient bien véritablement décidés à ne point reculer devant trois hommes dont l'un était blessé. Seulement, ils changèrent de tactique. Ils relevèrent les cadavres des leurs, ils se servirent de ces cadavres comme des boucliers, et protégés ainsi par leur mort, ils se ruèrent dans le couloir qui menait à la première chambre. Leur calcul était juste. Les balles de Lacuzon et de Garbas ne purent traverser les égides humaines qu'elles rencontraient. Un combat terrible et corps à corps s'engagea dans une obscurité qui n'était combattue que par la clarté vacillante du feu de broussailles allumé au dehors. Les gris étaient 6. Les francs-comtois n'étaient que 2, car il ne semblait point possible de compter sur Varros mourant. Alors, il se passa une chose étrange, presque miraculeuse. On vit le héros défaillant, dont l'épaule était brisée, dont les veines n'avaient plus de sang, dont les jambes chancelantes ne supportaient qu'à peine le poids du corps presque sans vie. On le vit, ranimé soudain par un effort inouï de la volonté, du cœur et des nerfs, marcher d'un pas ferme jusqu'au groupe de combattants enlacés qui se tordaient dans des étreintes homicides, lever sa lourde épée et la laisser retomber 2 fois. 2 ennemis roulèrent sur le sol, la tête fendue jusqu'aux épaules. Les autres lâchèrent pied et s'enfuirent. « Oh !» murmura Varros en appuyant contre ses lèvres le pommeau en forme de croix de son épée. « Seigneur, mon Dieu, soyez béni. Maintenant je puis mourir. » Et le vieux soldat tomba sur un genou, puis glissa doucement à terre en serrant toujours son épée. Dieu avait exaucé son dernier vœu. Il était mort en combattant. « Mon père !» cria Lacuzon. « Attends-nous, nous allons te suivre. » « Vous croyez donc qu'ils vont revenir, capitaine ?» demanda Garbas. « Oui, certes, je le crois. Et comme ils sont encore près de 20 et que nous ne sommes plus que 2, il est évident pour moi que notre dernière heure va sonner. Nous sommes perdus. Seulement, nous leur vendrons chèrement notre vie. Nous allons mourir, mais ils mourront avec nous. Comment cela se fera-t-il, capitaine ? Nous n'avons que 4 coups à tirer. J'ai un projet. Lequel ? Tu vas voir. Donne-moi la corne à poudre du colonel et la tienne. Les voici. Viens maintenant. » Lacuzon se dirigea avec Garbas vers la 2e chambre de la grotte. Nous avons dit qu'à l'extrémité du 2nd défilé, un bloc de granit tombé de la voûte obstruait une fissure qui, selon les traditions populaires, était le commencement d'une issue souterraine conduisant au champ sarrasin. Le capitaine dévissa l'extrémité des cornes remplies de poudre. Elle glissa ses cornes sous le bloc de granit. Il fit ensuite une traînée de poudre sur le sol et il attendit, un pistolet à la main. « Ah ah !» dit Garbas. « Je commence à comprendre, capitaine. Vous allez nous faire sauter. Et eux, avec nous. Que dis-tu de mon idée, Garbas ? Je dis qu'elle est bonne et qu'elle doit réjouir là-haut le colonel et le curé marquis. Cela t'afflige-t-il de mourir si jeune, mon pauvre Garbas ? En aucune façon, capitaine. Songez donc, mourir avec vous et de votre propre main, car c'est vous qui mettrez le feu aux poudres. Quel honneur pour un pauvre trompette. Un jour ou l'autre, un peu plus tôt ou un peu plus tard, il faut toujours s'en aller de ce monde. Mieux vaut que ce soit de cette façon et en si glorieuse compagnie. Eh bien, mon ami, viens m'embrasser. Ah, capitaine, de tout mon cœur. Maintenant, faisons notre prière à Dieu et tenons-nous prêts. 5 minutes s'écoulèrent. On n'entendait aucun bruit. Nul mouvement ne se manifestait auprès de l'ouverture de la grotte. « Capitaine, » dit Garbas, « qu'est-ce que peuvent donc faire là-bas ces bandits ? À vous parler franchement, l'incertitude me pèse. Je voudrais en finir tout de suite, et dans la situation où nous sommes, l'attente me semble un peu longue. » Et avec une héroïque insouciance, Garbas se mit à fredonner ce couplet de chansons qui avait servi de signal à Lacuzon et à Raoul de Champdivert, la nuit de leur entrée à Saint-Claude. Comte Jean, voici venir l'heure, le soleil penche à l'horizon. L'angélus dans le clocher pleure, l'oiseau chante dans le buisson. La fleur de l'églantier parfume, le val où s'égare mes pas. Je te cherche en vain dans la brume. Comte Jean, me voici, pourquoi ne viens-tu pas ? Garbas finissait à peine le dernier vers de son couplet, quand un tumulte soudain vint indiquer aux 2 jeunes gens que les assaillants revenaient à la charge. « À la bonne heure !» murmura Garbas. « Il se décide enfin. Mieux vaut tard que jamais. » Les gris, se coulant un à un, en rampant comme des couleuvres, avaient franchi le premier couloir et pénétré dans la première chambre. Là, ils s'étaient relevés tous à la fois, et ignorant l'existence d'une seconde grotte, ils s'élançaient contre les murailles, l'épée haute, frappant le vide et poussant de grands cris. « Le moment est venu, » dit l'accusant. « Que Dieu nous reçoive !» Alors, approchant de la traînée de poudre la gueule de son pistolet, il pressa la détente. Une sourde mais puissante détonation retentit. Le bloc de granit se souleva comme une feuille sèche fouettée par le vent. La montagne trembla jusque dans les profondeurs de ses entrailles souterraines. La voûte de la grotte se fendit en deux parties. Celle de la première salle s'écroula avec un fracas terrifiant, ensevelissant les gris sous ses ruines. Celle de la seconde resta debout et immobile, ainsi qu'un arceau de cathédrale. Quand la terre cessa de trembler, quand la fumée se fut dissipée, l'accusant et Garbasse, stupéfaits et presque effrayés de se trouver vivants encore, virent aux clartés de la lune tombant de la voûte entr'ouverte les premières marches d'un immense escalier qui montait jusqu'au champ sarrasin. Ils étaient sauvés. Ils étaient libres. « Par ma foi, capitaine !» s'écria Garbasse. « Nous revenons de bien loin !» Jamais un homme, j'imagine, n'a pu se vanter d'avoir vu ce que nous venons de voir. Chapitre 34. Justice des hommes. Une explication est-elle ici nécessaire ? À tout hasard, nous allons la donner. L'explosion, en déplaçant le bloc de granit dont nous avons parlé, avait mis à découvert l'issue depuis longtemps fermée et l'escalier construit jadis par les Sarrasins. Travail immense, entrepris et mené à bien par eux, dans le but de pouvoir, sans ouvrir le camp, venir puiser les provisions d'eau à la rivière. L'accusant, en pénétrant dans la seconde salle, avait apporté avec lui le cadavre de Marquis. Quant au corps de Varose, il avait disparu sous les roches amoncelées, comme si le hasard avait voulu donner à ce dernier descendant d'une race de géants une montagne pour tombeau. « Si Dieu nous a laissés vivants, » murmura l'accusant, « c'est que Dieu a besoin de nous. Achevons notre tâche. » Le capitaine et Garbasse, soutenant tous les deux la dépouille mortelle du prêtre, gravirent les marches rapides de l'escalier que, pour la première fois depuis des siècles qu'il était construit, les rayons du soleil levant allaient éclairer. Parvenu dans le champ sarrasin, l'accusant dit « Creusons la fosse !» Et en effet, les deux hommes entaillèrent le sol avec leurs épées et enlevèrent la terre avec leurs mains. Quand, au bout de 2 heures de travail silencieux, la tombe fut assez profonde, ils étendirent le cadavre du prêtre dans cette couche glacée. Puis ils comblèrent la fosse avec la terre fraîchement remuée et ils répandirent sur cette terre des cailloux, des mousses et des lichens afin d'effacer toute trace de ce qui venait de se passer. Ensuite, l'accusant s'agenouilla, et il s'écria, des lèvres et du cœur, « Christ, Fils du Dieu vivant, de la Trinité qui règne au ciel, c'est toi qui t'es sacrifié, toi qui es descendu sur la terre et qui es mort pour sauver les hommes. Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit sont restés là-haut. De la Trinité qui défendait la comté, moi seul, le Fils, je reste ici-bas. Le Père et le Saint-Esprit viennent de monter au ciel. Christ, ma mission dans ce monde n'est-elle donc pas terminée? Je me mets sous ta sauvegarde. Donne-moi l'intelligence de Marquis et la force de Varose, si le pays a besoin encore de la force et de l'intelligence de l'un et de l'autre. Christ, je t'implore. Christ, entends-moi. » Puis l'accusant se releva, un peu raffermi par sa prière, et il dit à Garbasse, « Partons. » Et tous deux s'éloignèrent sans tourner la tête. Le 3e jour, après la nuit dont nous venons de raconter les événements, il y avait grand mouvement et grand tumulte dans les rues de la bonne ville de Dôle. Il était 11 heures du matin. Les boutiques restaient closes, les cloches sonnaient. Les habitants en habits de fête parcouraient les rues comme un flot sans cesse croissant, comme une véritable marée humaine. Une foule plus nombreuse encore et plus bruyante couvrait les hauteurs qui dominaient la route du côté de Lons-le-Saunier. À coup sûr, quelque grand événement allait s'accomplir. Quelque haut personnage allait arriver dans la ville. Soudain, une exclamation unanime s'échappa de toutes les bouches. On venait de voir apparaître sur la route un nuage de poussière qui s'avançait rapidement. Cette poussière était soulevée par le galop impétueux d'un cheval dont le cavalier portait l'uniforme des soldats des corps francs. Quand le montagnard passa devant les curieux, ceux-ci lui crièrent « Vient-il ? » « Il vient !» répondit laconiquement le cavalier, qui continua sa course impétueuse et qui s'engouffra dans la ville. « Vive la Cuzon !» hurlèrent les citadins sur tous les tons. Au bout d'un quart d'heure d'impatiente attente, un nouveau nuage de poussière s'éleva sur la route. Il était bien autrement large et lourd que le premier, et au lieu de dévorer l'espace, il s'avançait avec une majestueuse lenteur. « Voici le cortège !» dirent les badauds. « Voici le cortège !» Et les badauds ne se trompaient pas. 50 montagnards ouvraient la marche. Piédefer venait ensuite à la tête d'un corps de 500 hommes. La Cuzon et Garbas, à cheval l'un et l'autre, précédaient de quelques pas un étrange attelage. C'était un grand chariot à 4 roues, attelé de 4 bœufs, dont le train supportait une sorte de grande cage en bois, à peu près pareille à ces cages de fer dont le cardinal de la Balue avait donné l'idée et fourni le modèle au bon roi Louis XI. Dans cette cage, on voyait un homme accroupi, garrotté, bâillonné, et dont la tête et les épaules étaient nues. En haut de la cage, on avait cloué un masque noir. Une foule de paysans, poussant des cris de haine et de mort, escortait la voiture et encombrait les bas-côtés du chemin. Un autre corps de 500 montagnards suivait l'attelage. Le prisonnier, ainsi enchaîné, ainsi insulté, dont l'œil était éteint comme celui d'un cadavre, et dont le visage disparaissait sous une couche épaisse de boue et d'immondices qui lui avait été jetée chemin faisant, cet homme, ce misérable, était en titre de Montaigu, comte et seigneur de l'Aigle. La Cuzon avait voulu donner une grande et terrible leçon. Il avait voulu graver dans tous les esprits l'ineffaçable souvenir du hideux châtiment d'un traître. « Vive la Cuzon !» criait la foule avec ivresse sur son passage. Il entendait à peine, absorbé par sa douleur, songeant sans cesse à Marquis et à Varose, qui, hélas, n'était plus auprès de lui, il traversait sans triomphe, avec une sombre indifférence. Le cortège arriva dans la ville et se dirigea vers l'hôtel du Parlement. Les montagnards écartèrent la foule et le seigneur de l'Aigle fut arraché de sa cage et introduit dans l'hôtel où son jugement allait être prononcé. Le populaire se dirigea tout aussitôt vers une vaste place attenante aux remparts et située au nord-est de la ville. Au milieu de cette place, garnie de spectateurs, se dressait un échafaud, un bûcher et une potence. On ne savait pas encore à quel genre de mort le criminel serait condamné, et afin que rien ne vînt retarder le supplice, il fallait tout prévoir. Au bout d'une heure, il se fit dans la foule un grand silence, et les masses s'entr'ouvrirent avec respect. C'est que l'accusant s'avançait, suivi de tous les membres du Parlement en robe noire, garnie d'hermine. Le condamné, entre le bourreau et ses aides, et sous la garde d'une escorte de montagnards, venait derrière les juges. On le soutenait, ou plutôt on le portait, car il ne pouvait marcher. Alors, le greffier en chef, déployant son parchemin, lut à haute et intelligible voix l'arrêt de mort conçu en ces termes. « Ce jour-d'hui, 16 novembre, de l'an de grâce 1638, nous, siégeant au Parlement de Dôle, en vertu des pouvoirs qui nous ont été donnés par les trois bailliages et confirmés par Sa Majesté catholique Philippe IV, roi d'Espagne, jugeant au nom de Dieu et de la province de Franche-Comté, considérant que noble homme, Antide de Montaigu, comte et seigneur de l'Aigle, a commis les crimes de félonie et de trahison envers son pays et envers Sa Majesté Philippe IV, considérant qu'il a conspiré la ruine de la comté en s'alliant à ses ennemis et en vendant à la France les chefs de la montagne. Attendu que tous ces crimes sont prouvés, déclarons le sire de Montaigu, comte et seigneur de l'Aigle, traître et félon. Ordonnons qu'il soit mis à mort et que son corps soit brûlé et ses cendres jetées au vent. Mais faisant droit à la juste requête du capitaine Jean-Claude Prost, laissons ce dernier libre de désigner le genre de supplice que devra subir en titre de Montaigu seigneur de l'Aigle. Fait en l'hôtel du Parlement de Dôle, pour les membres du Parlement siégeant en séance. Le président, Boivin. Une immense et joyeuse clameur accueillit la lecture de cet arrêt. « Justice ! Justice !» criait le peuple. « Vive le Parlement ! Vive le capitaine Lacuzon !» Quand la clameur se fit éteinte, la voix du greffier s'éleva de nouveau. « Capitaine Jean-Claude Prost, » dit cette voix, « quel est le supplice dont vous faites choix ? Parlez, et il sera fait selon votre volonté. » « Un jour, » répondit Lacuzon, « un jour, le seigneur de l'Aigle, interrogé par le cardinal de Richelieu, a dit, en parlant du curé marquis, « Pour cet homme, il n'est qu'un supplice, celui des manants, la corde. Antide de Montaigu, seigneur de l'Aigle, je vous inflige la peine du talion. La hache du bourreau ne touchera pas votre tête infâme. À vous la potence et la corde. » Puis, promenant un long regard sur la foule attentive, Lacuzon ajouta « La guerre est finie. La comté victorieuse est vivante et libre. Vive la comté ! Puisse le gibet d'aujourd'hui n'avoir plus désormais à se dresser pour punir un traître. « Vive la comté !» répéta le peuple. « Vive les défenseurs de la comté franche !» Un instant après, la justice des hommes était satisfaite. La justice de Dieu commençait. Le lendemain, dans la cathédrale de Dôle, un mariage était célébré sans faste et dans une solitude cherchée à dessein. Raoul de Champdivers donnait son nom à Églantine, en présence du capitaine Lacuzon, du baron Tristan, de Blanche de Mirbel et de la vieille Maggie, rajeunie par l'espérance de voir bientôt une troisième génération de Champdivers. Certes, au fond des cœurs, il y avait une joie vive, mais il y avait aussi une profonde amertume. On comptait les absents. Hélas, ils étaient nombreux. Pierre Prost manquait. Marquis manquait. Barrose manquait. Aussitôt que la cérémonie fut achevée, Lacuzon, un crêpe au bras et un crêpe au cœur, reprit le chemin de la montagne. Seul désormais pour suffire à cette lourde tâche de veiller sur les libertés et sur les destins de la vieille et noble province, il avait hâte de s'agenouiller de nouveau sur la tombe inconnue qui gardait pour toujours le secret de la robe rouge.